Oui, bien sûr.
C'est bon.
J'attends une tablée de 7 ce soir.
Bon, alors évidemment, règle numéro 1, que du bio. Hein.
Vous savez, on n'a rien contre le bio, du moment que ça reste gras.
Oh, c'est lui, c'est le vin sans sulfite.
Oui. Oh, il est délicieux, il donne pas mal à la tête.
Vous êtes dingue, les bobos, quoi.
Mais c'est quoi Noël pour vous? C'est quoi Noël?
C'est quoi? C'est la fête, c'est les cadeaux.
Bah, c'est le tous ensemble, c'est le partage du pain et du vin.
Ambiance bistrot. Cuisine gastronomique.
Voilà, moi, c'est la culture que j'aime. C'est ces trucs qui ploupploutent sur les tables avec des volutes d'odeurs qui arrivent. Donc, je vous ai fait un petit jus de cochon confite à la genièvre avec les légumes du moment.
Bah, moi, je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. À quelques jours de Noël, on dresse le couvert et on déroule notre menu de fête en direct. Cette fête de Noël se déroule dans le grand studio 611 de la Maison de la Radio et dans le respect des règles sanitaires. Dans le rôle de celui qui va réveiller notre réveillon, c'est Stéphane Reynaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'un bistrot à succès, on peut le dire. Oui, mon général, vous nous en rappelez l'adresse?
14 rue du Général Bertrand, Paris 7e.
Absolument. Et vous êtes aussi l'auteur de livres à succès. Le dernier recueil reçoit un excellent accueil dans le milieu de la gastronomie. Bistrotier, le livre des joues rouges et des assiettes associées. 80 pages à boire, 400 pages à manger avec les photographies de celles qui vous accompagnent dans tous vos livres.
Ma Marie-Pierre Morel.
Absolument. Et le tout publié aux éditions
Duchesne. Là.
Voilà, vous faites mon travail, Stéphane Reynaud. Non, plaisir. Sans blaguer, c'est un livre qu'on va trouver vraiment sous de très nombreux sapins. Il est gros, il est épais, il contient des recettes formidables. Vous allez nous en faire la démonstration. Vous nous avez promis un réveillon, peu d'efforts, beaucoup d'effets, à partir de produits très accessibles. Et ça, la précision est importante. Vous aimez qu'on se fasse plaisir à prix relativement serré, Stéphane Reynaud.
Oui, se faire plaisir à prix serré, pas passer trop de temps en cuisine et puis passer du temps avec les gens qu'on aime. C'est un peu le but de Noël.
C'est ça. Et un tout petit avant-goût de ce que vous nous avez préparé, sans trop dévoiler non plus.
Bah, des lentilles, parce que je suis de là-bas, donc falafel de lentilles et houmous de lentilles. Après du tarama, parce que c'est un produit qui est souvent décrié, donc on va le faire nous-mêmes et on va se régaler. Et puis des cochonneries pour suivre.
C'est ça, et vous allez même porter le casque micro puisque vous allez vous lever et agir devant la plaque de cuisson dont on va déguster. On va voir ça dans un instant. Autour de la table dont on va déguster, il fallait évidemment des convives à la fois généreux et qui ont de l'appétit, on va dire. Non, je vous regarde pas spécialement, Jérôme Gagnez. J'accueille donc une partie de la bande, notre chroniqueuse Elvira Masson, notre chroniqueur vin Jérôme Gagnez, donc, et notre avocat gourmet Éric Morin. Bonjour à tous les trois.
Salut
bonjour
tout le monde.
Eh ben bonjour.
Elvira.
Ça va commencer par un G et se terminer par un X.
Ah, petite solution des jeux tout à l'heure, ça va être même en début d'émission, une entrée particulièrement festive. Jérôme.
Attention, jeu de mots, j'ai élu 3 cuvées.
Élu 3 cuvées, élu pourrait être un mot indice, c'est exactement ce qu'on va voir tout à l'heure avec vous. Et Eric.
Eh bien patron, l'addition s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire dans un restaurant, dans un bistrot?
Chronique très intéressante, écoutez, sous le contrôle de notre ami Stéphane Reynaud. Si vous voulez mettre votre grain de sel à la maison dans notre émission, envoyez-nous vos remarques ou vos questions sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, coup de cœur, recettes, podcasts, sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
On attaque ce repas de Noël en douceur, avec une petite mise en bouche surprise que j'ai disposée dans les gobelets que vous avez sous vos micros. Vous connaissez la tradition hein, dans l'émission, celle de dégainer un produit et de vous le faire déguster à l'aveugle. Vos impressions, honneur à notre invité Stéphane Reynaud.
Ben, je vois que c'est, enfin, il y a un bon côté d'Ardèche pour moi, il y a de la châtaigne là-dedans.
Ah ben bravo.
Mais il n'y a pas que, derrière il y a un petit côté extrêmement épicé,
ouais,
pas identifié, mais qui laisse une belle fraîcheur en bouche.
Très bien.
Donc, c'est un bel équilibre entre le sucre de la châtaigne et puis ce côté frais, je dirais un peu de poivre ou quelque chose comme ça, mais voilà.
En vous en dégustant cette nouveauté, Stéphane Reynaud, j'ai pensé à vous et j'ai notamment pensé à une interview à laquelle vous aviez répondu le 24 juin 2021 aux Parisiens qui vous demandaient quel était votre ingrédient préféré et vous répondiez quoi?
Je donnais un petit tube de crème de marron.
C'est ça. Alors
voilà, je me promenais avec.
En raison de vos racines ardéchoises, disons-le tout de suite.
Tout à fait.
C'est ça.
Généralement, je le gardais 10 minutes dans ma poche parce que je le terminais trop vite.
C'est ça. Alors là, il est effectivement question de marron. Hein. Tout le monde est d'accord autour de la table.
Ouais, crème de marron avec des brisures. Il y a des morceaux à l'intérieur.
Précision importante.
Oui.
Il y a donc un jeu de texture.
Ouais. Il y a de la mâche. Exactement.
Bah, voilà. Jérôme Gagnez, allez-y.
Il y a de la mâche, c'est très bien équilibré, il y a le sucre qu'il faut pour moi.
Ah.
Donc je suis.
Et pourtant, il n'y en a pas trop, hein, je tiens à vous le dire.
Oui, mais il est bien présent. ça n'est pas du tout saturant. Mm-hmm. Effectivement, je perçois comme Stéphane ce côté un peu épicé que j'arrive pas à identifier pour le coup. Mm-hmm. Mais j'aime beaucoup ça et j'imagine une belle quenelle d'une crème crue bien grasse. Bien jaune, mm-hmm. pour accompagner ça. Ça alourdit un peu l'ensemble, mais ça reste. Mais en fait, c'est
oui,
une base.
La faisselle, ce serait bien aussi.
Oui, mais c'est léger. Moins gras, la faisselle.
Ouais. On pourra bon. Même intervenir cette salé. Chose dans un Mont Blanc ou dans du salé, dans pourquoi du salé, pas.
Je pense
Stéphane
que ça
Rénaud.
Peut marcher aussi, ouais, sur un morceau de foie gras comme ça. Moi, je le verrais bien aussi.
Ah oui.
Est-ce que notre avocat gourmet, Éric Morin, est aux anges?
Ouais, c'est un doudou, on a l'impression d'être au bord d'une cheminée.
Ouais.
Il neige dehors. Moi, je le verrais alors. Un petit peu moins gras, Jérôme, moi je le verrais avec un gouel, quelque chose un peu qui viendrait répondre sur l'acidité.
Là, le gouel, vous évoquez une spécialité de Bretagne, une spécialité laitière, donc on ferait un accord Ardèche-Bretagne.
Ouais, on ferait un joli pont entre la Bretagne et l'Ardèche.
Je pense que ça joue aussi très bien, ça.
Vous voulez savoir ce que c'est?
Oui.
Ça s'appelle Castana, c'est la toute dernière nouveauté d'une très belle maison ardéchoise qui œuvre sur le marron. Et attention, on parle vraiment de la châtaigne d'Ardèche AOP. Sabaton, ça vous dit certainement quelque chose.
Bien sûr, ça me dit quelque chose, évidemment.
Vous aimez cette maison ou pas, Stéphane Rénaud?
J'adore.
Fondée en 1907 par Paul Sabaton, issu d'une dynastie de confiseurs ardéchois. Alors on va dire que on n'est pas tout à fait en présence d'une crème de marron. On est entre la confiture de châtaigne et le marron glacé. Mmh. Vous savez comment c'est fait, en fait? La recette, c'est une confiture très peu sucrée. Sans vanille, mais tout le monde, c'est ça qui est très étonnant, je l'ai fait goûter à plusieurs personnes, tout le monde y détecte une note épicée sans qu'il n'y ait aucun condiment. Il y a simplement du sucre, du marron, et c'est ce marron AOP qui développerait au moment justement de la recette ses tonalités un peu épi-chaudes. C'est ça qui est très 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 étonnant.
C'est la cuisson au chaudron en cuivre ou quelque chose comme
ça. En tout cas, ça ressort systématiquement dans les notes de dégustation. Et c'est une recette qui est donc très peu sucrée, sans vanille, je l'ai dit, sans autre épice, au plus près du fruit, et pas n'importe lequel, cette châtaigne AOP. Et dans cette confiture, en fait, pendant la cuisson de la confiture, ont été ajoutés des gros éclats de châtaigne qui ont donc longtemps confit dans cette confiture et qui donnent en bouche cet effet un peu marron glacé. Voilà, avec une texture un peu rebondissante et charnue que j'ai trouvé moi personnellement très agréable. Ça s'appelle la Castana. On est donc dans une confiture déguisée en dessert ou dans un dessert déguisé en confiture. C'est 11,80€ le pot de 650 grammes. On est donc pour vraiment de la châtaigne régionale. Ouais. Quand on sait que d'autres maisons peuvent travailler avec des châtaignes un peu plus lointaines, on va dire.
Avec des crêpes pour la chandeleur, ça va être très bien. C'est bientôt.
Merveilleux. Castana. Toutes les infos sur franceinter.fr à la page on va déguster. En vente dans les bonnes épiceries fines et sur sabaton.fr. C'est Laurent Thomas qui réalise cette dernière émission de l'année avec Jenab Sangaré à la technique, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre site internet. Stéphane Rénaud est en place pour nous raconter et nous concocter son Noël au bistrot. Lancement des festivités culinaires juste après Feu Chatterton avec Compagnon. Et ben nous, on est en bonne compagnie en ce qui nous concerne. Bonne fête et bon appétit sur France Inter.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
Il aurait dû nous écouter.
Et je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons des mauvais jours, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort.
casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon, aimerais-tu penser à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
On va déguster.
Bienvenue au bistrot. Bienvenue dans un monde où l'on se fait du bien pour s'offrir une parenthèse de vie hors du temps qui court. Le bistrot, c'est un endroit et un moment. Un lieu qui ressemble à un chez-soi avec ses larges bras qui vous entourent dès votre entrée. Un instant privilégié où l'on peut reprendre son souffle entre deux bouchées bien saucées et deux canons bien avalés. Le bistrot, c'est le phare de l'assoiffé et de l'affamé. Tant qu'il y a de la lumière, on peut boire et manger. La carte du jour se dessine, les casseroles jouent au coude à coude sur le fourneau fumant. Les clients accoudés devisent sur la une du jour, ça échange entre avis tranchés et avis tranchés, entre café serré et blanc limé. C'est ça le comptoir, ça renifle à tout va. Les volutes de blanquettes dansent au-dessus des expressos, les souliers font chanter le sucre sur le sol. Dis Steph, tu me gardes une table pour le déj, je n'ai que 2 heures pour manger. Et voilà que demain, c'est chez vous que l'esprit bistrotier va flotter entre la cuisine en ébullition, la table bruyante et les joues rouges de vos convives. On se lance à l'assaut de la tradition tellement moderne d'une cuisine vivante, faite de plats généreux, qui parle aux souvenirs et décroche les sourires. Une cuisine de goût, facile à réaliser. Une cuisine culturelle qui titille les étoiles. Attention, vos invités du jour risquent de réserver à nouveau.
Mais il a décidément tous les talents, ce Stéphane Reynaud. En plus d'avoir un bon coup de couteau, un bon coup de fouet, il a aussi un superbe coup de plume. C'est le bistrot tel que vous le rêvez, le bistrot tel que vous le vivez aussi, Stéphane Reynaud. C'était un extrait de l'introduction de votre livre « Bistrotier », le livre des joues rouges et des assiettes associées, publié aux éditions du Chêne. 250 recettes de bistrot. Ça y est, vous êtes enfin décidé à faire un nouveau livre.
Ben oui, ben oui, ça me manquait tellement, donc il fallait bien que je m'y remette un petit peu. Hein.
Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre en plus, c'est que les noms de chapitres sont comme une espèce de déambulation dans le bistrot rêvé. On va voir que toute ressemblance avec un bistrot réel n'est pas totalement fortuite. Il y a le comptoir, il y a le banc de l'écaillé, il y a le plat du jour, la cave à fromage, la vitrine des desserts et j'en passe. En effet, c'est plus qu'un fantasme de bistrot, puisque c'est aussi un peu finalement à l'image du vrai bistrot que vous dirigez.
Mais oui, c'est mon métier quand même. Hein. Faut pas oublier que je suis restaurateur, donc à Ouimont Général, avec Nicolas Bessière, mon associé. Et c'est vrai que c'est une passion absolue, quoi, de partager avec les gens. J'ai une cuisine complètement ouverte, donc je déambule de ma cuisine. Je vais voir mes clients, je leur tape sur le ventre quand c'est Jérôme ou Eric. Enfin voilà, c'est vraiment que des bons moments, du partage, du plaisir. Et de faire à manger et que les gens soient heureux.
Et d'ailleurs, oui, mon général, puisque c'est le nom de votre bistrot que vous avez ouvert en 2019, il a servi de décor à votre ami Marie-Pierre Morel pour les photos.
Ben oui, oui, tout a été réalisé là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stylisme, je cuisine, on prend en photo, il n'y a personne qui va me rajouter une petite feuille de laurier verte parce que ça a plouplouté pendant 2 heures. Donc si c'est un peu marronasse, c'est comme ça. Il faut, quand vous réalisez les recettes chez vous, que ce que vous réalisez ressemble à la photo que vous voyez sur mon livre.
Et les recettes qui figurent dans Bistrotier sont évidemment, j'imagine, beaucoup empruntées de la vraie ardoise de Oui, mon général. Un bistrot à succès, qui est connu désormais comme le loup blanc sur la scène gastronomique. Ouais. Tout le monde y est allé autour de ce plateau, évidemment.
Oui. Presque.
Moi, non. Je connaissais la précédente adresse, moi.
Villa 9-3.
Villa 9-3, ouais. Montreuil. Ouais.
Et oui, puisque vous êtes restaurateur depuis un moment et vous êtes relancé.
30 ans seulement.
Oui, c'est ça. Mais vous êtes relancé dans une vraie aventure parisienne avec, on peut le dire, un succès totalement fulgurant. Comment l'expliquez-vous, le succès de votre bistrot, qui a d'ailleurs gagné, précisons-le, en 2021, le prix...
Du meilleur bistrot de l'année.
Des guides Lebet. Là, on a affaire à une référence sérieuse de surcroît. Pourquoi ça marche aussi bien?
Parce que j'ai énormément de talent.
Parce que vous serrez les prix, parce que vous êtes honnête.
Mais oui, c'est, en
parce
fait,
que
c'est
vous êtes aussi honnête dans le choix de vos produits.
Bah ça,
parce que vous êtes
ça, sincère. À 54 ans, on triche plus, quoi. Enfin, déjà, je n'ai jamais triché, mais on va vraiment à l'essentiel. Donc, on cherche les meilleurs fournisseurs, les meilleurs produits, en les travaillant assez simplement et puis en partageant. Ça, c'est vraiment l'idée.
Éric Morin a peut-être une explication sur le succès de Oui, mon général.
Il y a deux trucs qui sont géniaux. Quand vous téléphonez pour réserver, on vous répond « Oui, mon général, bonjour ». Donc déjà, on est extrêmement bien accueillis. On se sent en général soi-même. Et puis, il y a une carte des vins, surtout, avec des prix qui sont serrés. On n'est pas dans la culbute, parfois indécente. Et on peut se faire vraiment plaisir avec une carte des vins qui va parfaitement, évidemment, avec ce que l'on mange.
Jérôme Gagné se confirme ?
Oui, je confirme alors totalement ce que vient de dire Eric sur la carte des vins. Et puis, une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bistrots, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de bistrots à Paris dans lesquels je me suis senti aussi naturellement, aussi bien comme à la maison. C'est pas du tout fin.
Je confirme.
C'est même sidérant.
Libre de notre jugement.
Je comprends même moi-même pas comment ça peut se passer pareil, mais de cette façon-là, c'est vraiment, on a l'impression d'être chez les copains, avec les copains, pour les copains. C'est extraordinaire comme adresse.
Eh bien, chers auditeurs, pour vivre l'esprit, oui, mon général, il y a ce livre, Bistrotier. Et on va justement en avoir quelques échantillons. Je peux déjà vous dire que la table du studio 611 de la Maison de la Radio est recouverte de toutes les joyeusetés que nous a apporté Stéphane Reynaud. Et on va commencer par une petite mise en bouche. Allez, un apéro avec une légumineuse qui est chère à votre cœur. On comprend pourquoi vous avez des origines ardéchoises.
Ardéchoises, maintenant je suis alti-ligérien, donc forcément, j'habite au Chambon-sur-Lignon, la Haute-Loire.
Alors là, on est vraiment à quelques kilomètres, vous êtes presque à cheval sur la frontière. Hein.
12 kilomètres, mais j'ai quand même dû me faire vacciner. Attention, ça a été chaud hein, de traverser la frontière.
Entre Haute-Loire et Ardèche.
Ah ouais, oui.
C'est ça.
Ça alors, lentilles, des animosités. Hein.
La lentille, vous en faites des choses tout à fait étonnantes et vous arrivez même à la propulser dans une cuisine assez dans l'air du temps avec des influences levantines qui d'ailleurs parlent beaucoup
qui me réjouissent.
Au cœur et à l'estomac d'Elvira.
Mais oui, avec les lentilles, on peut faire plein de choses. Donc là, vous avez deux choses différentes. Vous avez des falafels, donc des lentilles que j'ai fait tremper toute une nuit et après juste mixer.
Ah, vous faites tremper vos lentilles?
Bah pour les falafels, oui, elles sont pas cuites, elles sont juste trempées.
C'est ça, donc vous les faites tremper aux 12 heures, on va dire?
Oui, c'est ça, une nuit au frigo, bien dans de l'eau, et puis après, elles sont mixées avec un peu d'ail, un œuf, et puis des herbes du moment. En fait, encore une fois, les recettes sont juste là pour évoluer. Mmh. Il faut rien figer, et c'est hyper important.
Ça
et à côté de ça, vous avez le houmous de lentilles. Donc là, c'est lentilles cuites. Et c'est un peu le même état d'esprit, mais cuite en houmous, ou en falafel, et puis j'ai fait une sauce pour relever un peu l'histoire.
C'est quoi la sauce?
C'est une petite, j'appelle ça la sauce qui pique.
Qu'est-ce qu'elle est bonne cette sauce? Attendez, on parle d'une mayonnaise quand même.
Oui, c'est une mayonnaise avec un peu de piment dedans, voilà, pour relever le tout.
Il y a une texture des falafels qui est absolument...
moelleuse, rebondissante. Ouais. Et en même temps, il y a une...
aérée.
Il y a un parti pris plutôt syrien. On sait que le débat entre Liban et Syrie, c'est que en Syrie, il y a énormément d'herbes fraîches. Et là, on a vraiment...
C'est plus végétal,
oui.
Plus vert, ouais.
C'est délicieux.
Bah, tant mieux, écoutez, j'espère bien.
Et j'ai pas tout à fait tout suivi sur le houmous. Vous cuisez vos lentilles classiquement. Est-ce que vous le faites dans un court bouillon ou vous le faites de façon très
simplement avec un petit peu d'un oignon, piqué d'un clou de girofle.
Mm-hmm.
Et après, elles sont mixées.
Oui.
Et vraiment, c'est, encore une fois, si vous voulez utiliser une huile neutre, une huile d'olive, une huile de sésame, c'est de faire vivre votre inspiration. C'est ce qui est chouette dans les recettes. C'est surtout pas qu'elle soit figée. De donner une base et cette base, vous vous l'appropriez, ça devient votre recette.
Je décèle quand même de la coriandre fraîche.
Oui.
Avec cette petite note de punaise écrasée, vous savez, il y a un petit côté. Je crois que Jérôme Gagnès, vous devez avoir un problème avec ce houmous de lentilles normalement. Dites-moi comment ça se passe.
Je vais le manger. Je suis pas inquiet.
Parce que Jérôme a un problème de coriandre, on est d'accord.
Oui.
C'est ça. Oui, mais
ça va.
Ça va.
Attention.
Je m'y attendais. C'est le houmous piégé pour Jérôme Gagnès. En tout cas, la recette est vraiment délicieuse. Très
bien acide, ça a du caractère.
Ah oui, il y a beaucoup de citron. Voilà.
Et voilà, elle est bien
hyper digeste. C'est hyper digeste. C'est très agréable. Moi, j'avoue que je ne suis pas un très gros fan de coriandre. Et bien, elle est bien présente, mes mères. Mais sinon, c'est ultra digeste, c'est bien acide. J'aime bien ça.
Bah en fait, pour mettre en bouche comme ça, c'est important d'avoir cette
fraîcheur. Bien sûr.
Et avec une lentille aussi simple, un légume sec aussi modeste et peu cher, on peut faire évidemment un apéro très festif et très surprenant.
Et c'est plus rapide à réaliser que le houmous traditionnel, le pois chiche, puisque la cuisson de la lentille est plus rapide aussi.
Absolument.
C'est moins fastidieux.
Oui,
il n'y a pas la petite pour enlever.
En plus.
Bien de temps.
Et puis ça change.
Oui, ça change.
On va goûter plein d'autres petits miracles concoctés par notre invité Stéphane Reynaud, mais on fait une petite pause. Alors, je vais dire au Nord, je commence déjà à donner un indice. Oui, puisqu'Elvira nous a concocté un plat de fête mystère. Petit indice, elle a grave assuré. De quoi s'agit-il?
On va déguster. Sur France Inter.
Jeu de mots, oui.
J'avais commencé par une devinette. On devait aller de G à X.
Oui.
Alors, monter au Nord, et j'ai grave assuré.
Oui, ça commence à brûler, là.
Je vais l'avoir, là.
Mon grave de l'axe.
Oui.
Alors, on va y arriver.
Jérôme, comment vous connaissez le vrai nom historique?
Parce que je suis familier avec les langues nordiques.
Ah oui, c'est ça. Tiens.
Oui, oui.
Précisément, c'est un poisson gravlax que je vous ai préparé. Et gravlax, c'est en soudain la contraction de gravade, comme Jérôme vient de le dire, qui veut dire enterré, et de lax, qui veut dire saumon. Gravlax, c'est gravadlax. C'est une préparation qui est commune à peu près à tous les pays scandinaves, avec des variations d'appellation. Et c'était un peu comme pour le fumage, une manière de conserver le poisson sans cuisson. Alors le principe est celui d'une marinade à sec, faite de sel et de sucre, ça c'est la base, à laquelle on peut ajouter du poivre et de la nette. Alors je vous livre ici la méthode du chef suédois Magnus Nilsson, qui était le chef de ce restaurant fameux, vous connaissez Eric, vous y êtes allé, Fäviken, qui est l'auteur de La cuisine des pays nordiques aux éditions Faydon, qui est un peu le livre somme.
Oui, on l'avait d'ailleurs reçu pour un On va déguster qu'on peut encore podcaster.
Et en 2016, il nous avait livré sa recette de saumon gravlax. Alors pour un kilo de filet de saumon avec la peau, sans arête, on compte 4 cuillères à soupe de sel et 4 cuillères à soupe de sucre. C'est un temps pour temps. Magnus Nilsson ajoute 20 grammes de poivre blanc écrasé et un bouquet d'aneth. Il mélange les ingrédients, frotte le poisson avec et place l'ensemble dans un sac plastique. Très important le sac plastique pour assurer que l'ensemble de la surface du poisson soit bien en contact avec la marinade et qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas d'espace libre. Alors, sac plastique, c'est pas idéal d'utiliser du plastique.
Moi, j'étais choqué.
On n'a plus des sacs plastiques normalement.
Et conseillons quelque chose, c'est qu'on achète des Ziploc.
Bon, c'est la marque, un Ziploc, mais je ne sais pas si c'est
vrai. Voilà, on achète un des sacs à congélation. Il y en a 12, on les lave, on les relave, on les réutilise.
Exactement.
Et tout va à peu près bien.
Oui. Une fois qu'on a mis le poisson à mariner, on ferme bien le sac, bien sûr, on pose des pois dessus, on laisse mariner au frais pendant 48 heures, nous avait dit Magnus Nilsson, et c'est ainsi que c'est indiqué dans son bouquin. 24 heures a-t-il indiqué dans une recette plus récente. Moi, je préfère pour ma part un temps un peu plus court pour une texture plus fraîche, peut-être moins confite. Historiquement, on faisait mariner jusqu'à 72 heures pour des raisons aussi de conservation. Les goûts ont un peu changé. Je pense qu'on préfère peut-être quelque chose d'un peu moins littéralement confit. Puis évidemment, on rince abondamment et on découpe en tranches très fines, selon Magnus Nilsson. Là encore, ça dépend. Moi, j'aime bien que ce soit pas trop fin.
Moi, j'adore vos tranches un tout petit peu épaisses. Ouais. Alors, vous pratiquez le gravlax avec un autre poisson que le saumon, ce qui peut paraître un peu paradoxal parce que si on vous suit bien, gravlax dans gravlax, lax,
c'est
saumon.
C'est ça.
Donc, vous faites un grave
non lax. Je fais un grave non-lax, je fais un grave...
Avec un autre poisson qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre au saumon et qui en a la couleur.
Vous avez deviné, c'est quoi ?
C'est de la truite.
Ouais. Bravo.
C'est de la truite de Banca. Le saumon, c'est un peu compliqué Stéphane, vous n'allez pas me contredire. En grande majorité, il est issu de l'élevage. On ne trouve pas grand-chose en saumon sauvage, à des prix complètement fous. Mmh. Un peu d'Alaska, très peu de Baltique, quelques pièces par an de saumon de l'Adour. L'élevage, on sait à quel point c'est problématique. Il faut toujours plus d'un kilo de poisson sauvage pour produire un kilo de poisson d'élevage. Le poisson pêché pour nourrir les élevages, c'est de la pêche minotière, des navires géants, etc. Donc, comme vous le disiez, il y a d'autres poissons qu'on peut utiliser. Donc là, littéralement, en suédois, ce serait un grave truite, donc un grave forel. En suédois, mais grave forel, ça sonne pas super bien. Donc, je disais, c'est de la truite de Banca. Un poisson d'élevage du Pays Basque, peu nourri et bien nourri. On peut dire que c'est une ferme aquacole très responsable. Avec une truite qui a un cycle de vie long, une croissance, une belle croissance, et qu'il est assez proche finalement d'une truite sauvage. Je l'ai fait mariner juste avec du sel et du sucre, j'ai pas mis de poivre, j'ai pas mis d'aneth, et je l'ai fait mariner à peine 12 heures parce que c'est un petit filet de 450 grammes. Attention aussi au filet qui a donc des pointes plus fines. Fatalement, la pointe plus fine va confire plus vite que le cœur, donc faut surveiller un petit peu la marinade.
Il est merveilleux,
délicieux,
franchement, cette truite gravlax. La truite de Banca.
Un petit morceau pour vous.
La truite de Banca étant une truite bien élevée au Pays Basque. Et si on s'oriente vers le saumon, on peut quand même sauver le saumon bio. Et puis il y a le saumon bio d'Irlande, même si
c'est
on sait
aussi.
Que l'élevage n'est pas idéal. Il y a le saumon label rouge d'Écosse, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de saumon.
Problème élevage quand même.
Très mal élevé.
Et je l'ai accompagné d'une sauce qui n'est pas la sauce gravlax traditionnelle, que les Suédois qui m'écoutent me pardonnent. La sauce gravlax est une sauce assez grasse, assez sucrée, faite de moutarde, de svensksenap, c'est de la moutarde très sucrée, avec de l'aneth hachée et de l'huile. Et moi, j'ai simplement fait une petite crème fleurette au réfort avec un peu de citron, pas mal de poivre
et d'aneth. Oui, c'est ça.
Oui, j'ai mis l'aneth là et pas dans la marinade.
Et voilà,
pour rafraîchir un petit peu un poisson qui parfois peut être un peu sur le sucre ou un peu, enfin, vraiment sur le gras, quoi.
Cette petite fraîcheur picotante, c'est donc le réfort.
Vraiment
bien joué, hein.
Ça fait un bonbon.
On en pense quoi? Ça va ou pas?
Ouais, ça fait un bonbon.
Délicieux.
C'est très, très
de bonbon de truite.
Avec une texture moelleuse. Ouais. Non, franchement, c'est super.
C'est remarquable.
Et c'est une recette, cette truite de Banca façon gravlax, que l'on retrouve parmi les 150 super recettes de votre premier livre de cuisine que vous signez, Elvira, aux éditions Marabout. On a eu l'occasion déjà d'en parler abondamment. Mais voilà un livre aussi qui va se retrouver souvent sous le sapin. Et on retrouve de nombreuses recettes que vous avez dénichées et cuisinées pour 10 saisons dont on va déguster. Et on retrouve également, plus étonnant, une version de gravlax avec du bœuf.
Ah oui, c'est une recette complètement folle. En suédois, c'est grovad oxfilet. Ça veut dire
du filet de bœuf.
En grave, pas lax du coup, mais saumuré. enfin marinée. C'est une recette qui a été inventée dans les années 60 dans un restaurant mythique de Stockholm qui s'appelle Opéra chez la Reine, qui est un peu le Lip suédois, mais en bon. Enfin, pardon.
C'est dit.
Et c'est un filet de bœuf mariné au sucre et au sel. Là, pour le coup, il faut bien le mariner 72 heures. Et ça donne cette viande noire, étonnant. Une espèce de pastrami, si vous voulez.
Ouais, où on a presque l'impression d'avoir affaire à une viande dégrison.
Sauf que c'est pas sec comme peut l'être parfois la viande dégrison. C'est ultra moelleux et ça se sert avec une espèce de sauce mousseline et une écrasée de pommes de terre. Et c'est vraiment divin. Alors, c'est un peu de la folie hein, d'utiliser un filet de bœuf. C'est quand même très cher, le filet de bœuf. Et de le faire mariner, donc il réduit à la marinade, bon, il faut, c'est recette de fête.
Avec une salade de pommes de terre.
Ah ouais.
Le filet de bœuf Gravelax, sauce Nobis, à retrouver dans votre très joli bouquin. Un vrai merci, Elvira. On est
merci.
Au rayon des produits de la mer. On va y rester avec vous puisqu'on a une autre entrée magnifique. On sait que la saison des fêtes, c'est aussi celle sur la table basse de l'apéritif de la, du tarama.
Et oui, un tarama maison, évidemment.
Et on sait que les taramas, alors soit c'est rose fluo et on s'en éloigne un peu parce que c'est bourré de colorants, soit c'est dans les bonnes épiceries fines, mais c'est très cher. Vous, vous avez la solution, cher Stéphane Reynaud, pour un tarama maison, un tarama maison.
Tarama maison, absolument non, mais c'est juste d'acheter des œufs de cabillaud en poissonnerie et après, l'histoire est très simple, un peu de lait, du pain, de l'huile et des jaunes d'œufs et on monte tout ça chez soi et on a une texture extrêmement bonne, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, quand vous achetez des taramas dans le commerce, j'ose pas savoir combien il y a d'œufs de cabillaud par rapport au poids que vous achetez.
Ouais. Voilà.
Et là, on est sur un produit, un produit brut, tout simple.
La douceur et la mer.
Mais oui. Et encore une fois, c'est peu cher, je veux dire ça.
Tout simple, Stéphane Reynaud.
Ah non, c'est extrêmement simple.
Oui, mais on a affaire à une émulsion.
Oui.
Il s'agit donc de faire monter un peu comme une mayonnaise. Voilà, comment on obtient cette texture aussi onctueuse en mettant évidemment pas mal d'huile?
Je vous dis, c'est encore une fois le talent, mais mais on rajoute.
Ça se passe dans un blender?
Oui, dans un blender avec du pain trempé dans du lait, des jaunes d'œufs, et après on monte à l'huile d'olive pour avoir la texture que l'on veut. Enfin, l'huile d'olive, l'huile nature, pardon. C'est une huile de pépins de raisin. On peut rajouter une pointe d'huile d'olive à la fin. Et puis servir ça avec des petits pickles d'oignons. Ou...
On demande quoi à son poissonnier? Une poche
d'œufs de cabillaud. Sinon, ça vaut à peu près 50 euros le kilo. Encore une fois, je veux dire, ça se partage tellement que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour rassasier.
Il y a besoin de combien de grammes d'œufs de poisson?
Là, avec une poche de 500 grammes, vous nourrissez 12 personnes.
Là, je peux même vous dire que le tarama bien frais de notre ami Stéphane Reynaud, ça part de, pour un beau bol bien garni, 200 grammes d'œufs de cabillaud fumés. Il y a cette petite note aussi fumée, mais on peut les trouver pas fumés d'ailleurs. 80 grammes de pain de mie, 10 centilitres de lait, vous mettez aussi un petit suisse pour l'onctuosité.
Oui, après, la recette est faite pour être vivante.
Il y a 15 centilitres d'huile d'olive, plus 5 centilitres, un jaune d'œuf, le jus d'un citron, un oignon nouveau. Il y a même un peu de basilic, mais pas dans celui-ci.
Non.
Puisqu'on n'est pas en été.
Voilà.
Et le tarama peut servir, dites-vous, de base à une belle assiette de légumes crus dans lesquels on viendrait faire trempette. Et ça, c'est une super idée. Vous découpez, évidemment, des céleri branches, quelques carottes en bâtonnet, et vous faites trempette. Disent nos amis québécois, vous faites trempette dans le tarama maison de Stéphane Reynaud. Ça, c'est une super recette à la page 52 de votre livre.
Oui.
Est-ce que vous voulez qu'on prévoie un petit accord dans nos verres avec ces saveurs marines? Il se pourrait que le sommelier du jour, Jérôme Gagnaise, ait trouvé le mariage idéal.
On va déguster sur France Inter.
GG Gaga.
Alors j'ai fait un jeu de mots qui m'a été soufflé par vous, patron. C'était remarquable d'intelligence et de clairvoyance. Et je vous en remercie mille fois. J'ai donc élu 3 cuvées. Ce sont des cuvées d'un domaine qui s'appelle Terre de l'Élu.
Wow.
Nous sommes en Anjou, à Saint-Aubin-de-Luigné, en plein cœur de cet Anjou noir que je chéris. Parce que
bon chéri d'ailleurs, hein, et on en a abondamment parlé à l'occasion d'une émission sur les vins liquoreux.
Nous en parlâmes récemment à l'occasion de l'émission sur les liquoreux. On chérit ce coin de France parce que c'est très beau, c'est très bon, et on y fait encore des affaires merveilleuses. Alors ça se fait parfois au détriment du niveau de vie de nos amis vignerons, mais il faut bien reconnaître quand même que les prix sont pas encore au niveau des vins. Donc je vous parle de Terre de l'Élu. C'est un domaine d'une vingtaine d'hectares qui a été monté par Charlotte et Thomas Carcin. Alors Charlotte et Thomas, Thomas il était dans le conseil vitivinicole, Charlotte elle était dans la com à Paris, et bah, finalement ils se sont retrouvés après une croisière en Bretagne, enfin une régate en Bretagne, ils se retrouvent à faire du vin tous les deux. À Saint-Aubin-de-Luigné, ils échouent là comme ça, sur ce très beau terroir de schiste de l'Anjou. Et ils montent ce domaine à la force du poignet, tout seul, comme des grands, avec l'envie de bien faire, avec l'envie de faire des vins de lieu, avec l'envie de faire des vins qui, comme le disait le très grand, l'immense Jacques Puiset, ont la gueule de l'endroit et les tripes du bonhomme qui l'a fait. Eh bien, en l'occurrence, c'est ce qu'on retrouve ici, la terre de l'élu, et nous dégustons. Pour commencer,
le verre de Stéphane
Renaud. Le verre de Stéphane Renaud est vide, c'est un scandale. Appelez-moi le sommelier. T'as un verre qui est abîmé, Stéphane. C'est un problème. T'as un verre qui
fuit.
Il fuit. Ouais. Et donc on a là un vin qui est un chenin. Alors, petite précision très rapide. Le domaine, en 2019, a décidé de sortir de l'appellation. Je voudrais dire un tout petit mot très rapide là-dessus parce que c'est très important. On les emmerde toute la sainte journée avec l'ODG, avec des dégustations d'agréments qui n'ont aucun intérêt.
ODG, on est perdu là.
Pardon, oui, excusez-moi. En fait, pour faire du vin, pour avoir l'appellation, vous devez passer par les fourches codines d'une dégustation d'agréments qui est une connerie sans nom, qui a été inventée par des crétins, alors que ça devrait pas exister. Donc, parce que ça n'a aucun sens, les vignerons ne se jugent pas entre eux, c'est complètement débile. Donc, chacun fait le vin comme il entend le faire, en respectant un certain nombre de règles, et il faut laisser un peu de liberté, de créativité aux vignerons. Parce qu'ils adaptent en fonction de leur terroir, en fonction des choses comme ça. Donc Thomas et Charlotte en ont eu ras le melon de tout ça, et donc ils ont dit on sort de l'appellation, c'est plus de l'Anjou qu'on fera, on fera du vin de France. Ils n'en sont pas moins de vibrants témoins et de grands transcendeurs de ce très beau terroir de schiste des Anjoux, de l'Anjou noir. Donc Bastingage, vous le trouverez sous l'appellation Vin de France, tant pis pour l'Anjou, enfin en tout cas pour ceux qui dirigent, et voilà, ce chenin, qui est un chenin sur schiste, donc ça donne des vins, des chenins avec du volume, du gras, de la puissance, et en même temps il y a de l'acidité. Vous avez goûté, est-ce que vous aimez, les amis, ce vin que je vous ai servi?
J'allais solliciter Stéphane Renaud pour lui demander son avis. Vous avez quand même un palais assez affûté et blindé en matière de vin.
J'ai fini mon premier verre, donc forcément j'ai aimé.
Vous avez aimé?
Ouais, mais c'est super, c'est vie. Fraîcheur. Voilà, il y a la puissance, mais au final, il y a une telle fraîcheur que voilà, on a envie d'en reboire. C'est des bouteilles qui sont toujours vides.
Et ça se passe particulièrement bien avec votre tarama.
Hein, oui. Oui, c'était ce qui est une gageure, hein, parce que c'est pas évident. Mais en l'occurrence, voilà, vraiment. C'est un très joli blanc qui est à la fois gras, il y a une belle acidité. Pour un repas de fête, pour un repas de Noël, ça vaut 21 €. Alors ça n'est pas, c'est un peu au-dessus des prix que je donne d'habitude, des vins que je fais, parce que je suis plutôt en dessous de 15. Mais écoutez, c'est un vin qui a 10 ans ou 15 ans de garde devant lui. Moi, j'ai des 2009 encore qui sont magnifiques. Donc je sais de quoi je parle. J'en ai acheté depuis très longtemps. Ce sont des vins qui vieillissent remarquablement bien et qui sont, encore une fois, qui rendent hommage à la terre d'où ils viennent. Et ça, c'est très important.
Cuvée Bastingage.
La cuvée Bastingage.
On peut préciser aussi, je vois le petit logo qu'ils sont en agriculture biologique.
Ils sont en agriculture biologique depuis le départ. Enfin, très rapidement, ça s'est monté en 2008. En 2013, ils étaient certifiés. Donc, ils n'ont pas perdu de temps. Et comme toutes les cuvées, les noms de cuvées, c'est la passion pour la voile de Charlotte et Thomas transparaît dans les noms de cuvées ici, Bastingage.
C'est quel prix?
C'est 21 €.
Et on peut en commander directement au domaine.
On peut en commander au domaine directement. Toutes les informations sont sur le site de l'émission.
Vous aimez ou pas, Éric Morin?
Fan de Chenin, définitivement.
Ouais. Et celui-ci, une très belle illustration.
Puis, je partage le point de vue de Jérôme sur les appellations et sur les néo-vignerons qui claquent la porte ou qui définitivement s'installent hors de les appellations pour pouvoir faire le vin qu'ils aiment. Voilà.
Et ça, c'est l'avis d'Éric Morin qui s'y connaît en matière de vin, puisque vous défendez de très nombreux vignerons qu'on peut qualifier de nature ou artisanaux, face justement à ce genre de problématiques. Allez, on se retrouve dans un instant pour d'autres choses. Vous allez enfiler votre casque micro, mon cher Stéphane Renaud, et vous allez rejoindre l'énorme cocotte qui est en train de mijoter sur la plaque de cuisson du studio, puisque l'on va déguster le Père de Résistance dans un instant. Et en attendant que vous soyez bien prêts, et ben une petite pause musicale. Gabriel, c'est un trio de Los Angeles avec le titre Blame. C'est la fête sur France Inter.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Ooh, la, 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 la. Then the crowd calls. walls of rolling ice and waterfalls. I can't help but smile. Troubled fortunes lies in shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said. If it's where I wanna be, then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Le réveillon bistrotier de l'ami Stéphane Reynaud, du simple, du pas cher. On le disait finalement, très peu d'efforts, beaucoup d'effets. Ça vous va comme formule, Stéphane ?
J'adore.
Et là, il y a un parfum qui se dégage dans le studio 611. Vous êtes devant une énorme cocotte en fonte. Racontez-nous ce que vous avez fait.
J'ai fait une échine de cochon, parce que le cochon, c'est ma passion, les cochonneries aussi.
C'est ça.
Donc voilà, donc j'ai fait une belle échine de cochon qui a cuit pendant plusieurs heures, voire toute une nuit, sur un four qui maîtrise la température,
ouais.
Avec des topinambours.
Ah !
Oui, et un petit peu de cidre dedans.
Ouais.
Et ensuite, je vous ai amené... Un ingrédient surprise.
Juste, comment vous... Parce que vous nous parlez de cuisine, on a toujours l'impression que c'est super simple. Vous cuisinez comme vous respirez, en quelque sorte.
Bah, en fait,
mais pour ceux qui sont derrière leur poste et qui voudraient dompter cette petite échine de cochon, déjà, vous aimez ce morceau de l'anatomie porcine. Pourquoi ?
Oui, parce qu'il y a le gras intramusculaire qui est magnifique. Et c'est des morceaux de viande qui se permettent des cuissons très très longues. Donc globalement, si on a un four à 120 degrés, on peut le poser, on n'a pas besoin de le surveiller. Ça cuit tranquillement, ça plouploute, on fait d'autres choses pendant ce temps-là. Donc c'est en fait peu de temps de préparation, un long temps de cuisson, mm-hmm. Et pendant ce temps-là, on fait d'autres choses.
C'est ça. Et donc là, vous l'arrosez avec du cidre, c'est ça ? Vous y avez ajouté les topinambours au début ?
Non, je les ai rajoutés une petite heure avant la fin de la cuisson.
D'accord, pour pas que ça se délite.
Juste bien frotté, coupé en deux, même pas épluché, avec de l'ail en chemise, un peu d'échalote. Et puis après, je rajoute un peu de fraîcheur. Mais vous allez me dire ce que c'est que cette fraîcheur.
Alors, à la recherche de la fraîcheur dans ce plat, tiens, je viens d'être servi, il y a de l'estragon ?
Il y a une pointe d'estragon, mais il y a quelque chose.
Alors, chacun va donner un petit peu. Alors, pendant que nos amis essayent de retrouver ce petit ingrédient surprise, parlons cochon, c'est effectivement votre mascotte. Vous lui devez vos souvenirs d'enfance. Première tue cochon à quel âge ?
7 ans.
Ça se passait où ?
Ben en Ardèche, à Saint-Agrève.
C'est ça. Évidemment, petit-fils.
De boucher charcutière des choix.
Donc ça aide les cochons aussi ?
Ben oui, je me réveillais avec les odeurs de plats comme ça, puisque c'était le plat des commerçants. Ils cuisinaient avant d'aller travailler, donc il y avait toujours une marmite qui ploutait sur le fourneau.
C'est ça. Le cochon, vous lui devez aussi, évidemment, des succès d'édition. Et on se souvient... Eh ben, on va carrément parler de best-seller international, puisque vous avez sorti en 2005 « Cochon et fils », le livre autour de la cuisine du cochon, des charcuteries, des terrines et j'en passe. Ça a été traduit en 16 langues. Vous avez fait le tour du monde des librairies et des plateaux de télé avec ce livre.
Oui.
États-Unis, Royaume-Uni, Australie, vous gardez quel souvenir de ce book tour ?
Bah, que du bonheur. Je veux dire, si on m'avait dit un jour qu'on m'inviterait à l'autre bout du monde pour aller parler de cochonnerie, bah, j'aurais dit « Non, mais vous foutez de moi, là ». Donc non, c'était super, évidemment. Et j'espère qu'avec Bistrotier, ils vont me rappeler un peu aussi l'autre bout du monde.
On attend avec impatience. On va déjà commencer par son succès français, mais ça, on vous le promet. Alors, sauce rafraîchissante, est-ce que vous avez l'ingrédient mystère ?
Moi, je pense que c'est du citron. C'est un agrume en tout cas.
C'est un agrume, non, c'est de la bergamote. Ah.
Mmh. Bergamote. Voilà. Alors moi j'avais pas encore goûté parce que par définition je ne parle pas la bouche pleine. Et vous avez donc ajouté quelques zestes de bergamote, c'est ça?
Oui, zestes de bergamote et jus de bergamote, tout à fait. Voilà, wow. Pour amener justement cette fraîcheur, parce que pour contrebalancer le gras du cochon, j'aime bien toujours mettre un peu...
Il n'y a pas de gras dans le cochon aussi?
Ah bon.
Donc est-ce que ça balance bien avec le côté anisé de l'estragon aussi.
Ouais. Très bon, ouais.
C'est ça. Est-ce que ça contrarie la cuvée que vous avez prévu de nous faire goûter avec? On est toujours
pas du tout, parce que la légendaire fraîcheur ligérienne ici agit comme un lien avec ce petit trait de bergamote qui n'est cependant pas totalement dominant. Donc voilà, ça fait un lien très intéressant parce que en fait cette recette, c'est une viande qui est extrêmement confite, qui est extrêmement moelleuse. Donc j'avais besoin, pour faire face à ça, d'un vin qui allie à la fois une certaine tenue en bouche avec du fond, et en même temps un tanin très poli, très soyeux, très élégant, et de l'acidité. Quelle autre sublime région que la Loire peut nous fournir un rouge qui rassemble toutes ses qualités, aucune, à part la Loire. Et donc, on a cette cuvée Maupiti. Alors, la cuvée Maupiti, c'est un assemblage de Gamay et de Cabernet Franc sur des schistes. Et on a ici un véritable... C'est pas seulement un bonbon de fruits, parce que ce serait faire injure à ce vin que de le réduire aux fruits purs. C'est une jolie acidité, c'est un caractère presque un petit peu mine de crayon qu'on va retrouver dans ce vin, qui est l'expression aussi de ce lieu. Et c'est, encore une fois, la fraîcheur ligérienne qui en fait un vin extrêmement digeste. Donc un verre en appelle un autre. Macération est encore à l'hôpital, elle a toujours le Covid. Donc,
macération, vous voulez parler
Modération, ah oui. Pardon.
Par contre, vous allez effectivement boire avec modération, hein, parce que ça commence à déraper.
Modération étant toujours à l'hôpital, on pourra prendre un deuxième verre. Et voilà ce vin qui est encore une fois sur à la fois ce côté ligérien très digeste, et en même temps il y a du fond. C'est un vin que vous pouvez garder 5 à 7 ans, ça vaut 16 €. Encore une fois, c'est un joli vin de fête qui est très accessible pour un vin de fête.
Terre de l'élu toujours, hein,
et toujours, bien évidemment, aujourd'hui nous réveillonnons avec la terre de l'élu, avec Charlotte et Thomas Carson,
voilà, c'est
dans nos verres.
Les élus de notre cœur et de nos verres, modération et macération sont dans un bateau. On ne connaît pas encore la suite, mais on va s'arrêter là. Je veux pas dire, mais la bergamote, je l'ai eu à la première bougée. Alors c'est évidemment plus facile quand on a la solution des jeux, mais non, ça apporte, ça apporte.
Le gars il triche, il dit ouais, j'ai gagné. Bravo.
Attendez,
il est à l'aise à la finesse.
Ah ouais.
C'est le talent encore, ça.
Une tonalité méditerranéenne agrumée. Non, franchement, ça transforme le cochon.
Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on peut remplacer l'échine par un quasi de veau.
C'est ça.
On peut faire exactement la même chose sur du veau et ce sera le même résultat. Donc ne pas hésiter, si vous ne mangez pas de cochon, de faire ça avec du veau.
Oui, absolument. C'est vraiment une très très belle.
Les topinambours, on les met à quel moment de la cuisson?
Il faut à peu près une petite heure de cuisson comme ça, à 130 degrés, avec le.
Une heure avant la fin de la cuisson, vous n'avez pas écouté.
Je mangeais mon assiette.
Oui,
je
c'est ça.
Occupé à me régaler.
Concentré sur la bergamote. Absolument. Attention, qu'a-t-on le droit de faire ou de ne pas faire au restaurant? Ça va vous intéresser, évidemment, cher Stéphane Reynaud, puisque vous êtes patron de bistrot. Petit code de conduite raconté par notre avocat gourmet Éric Morin.
Sur France Inter, on va déguster.
Sur le comptoir, il y a des bons qui défilent, des commandes envoyées fort et clair, un chef au pass qui appuie sur une sonnette ou qui claque des mains pour dire que c'est prêt à envoyer, une ambiance mélangée de caserne et de réfectoire d'école. Le chef en cuisine est parfois aussi le chef du bistrot, mais au fait, une fois le pass sanitaire dûment contrôlé, on a le droit de faire quoi? Lui, vous et moi, dans ce restaurant. Alors d'abord, on doit afficher, et bien afficher, oh la DGCCRF y veille, rassurez-vous, nulle différence ne doit exister dans les cartes, menus et prix entre l'extérieur et l'intérieur, et ils doivent être affichés au moins à 11h30 pour le déjeuner et 18h pour le dîner.
Ah, il y a même des horaires.
La provenance de la viande est obligatoire et les autres provenances peuvent être demandées et tenues à disposition du client. Et évidemment, en France, c'est le prix, taxes et services compris qui est affiché, pas besoin de calculer, comme aux États-Unis ou ailleurs, mais n'oubliez pas le pourboire quand même. Et gare à votre carte des vins, amis restaurateurs. Ne mélangez pas les vins d'appellation et les vins sans origine. L'aristocratie, ou supposait-elle des premiers, impose qu'on ne les mélange pas au tout venant, pourtant de plus en plus prisés par les consommateurs avertis.
On va prendre quelques exemples avec Éric Morin, mais c'est globalement un casse-tête quand même, hein. notamment la rédaction de votre carte des vins.
C'est l'enfer. Mm-hmm. Donc tant qu'on se fait pas gronder,
oui, ça va.
Écoutez, on écrit, puis après on voit.
Il y a quand même toutefois des contrôles réguliers.
Évidemment.
Peut-on venir, première question, Éric Morin, peut-on venir à toute heure dans un restaurant ?
Alors un peu quand on veut, dans la limite des heures de service, qui là aussi sont dûment affichées. Mais le restaurateur a aussi le droit d'ouvrir en continu, ça se perd, hélas, et servir un os à moelle ou un haricot de mouton à l'heure des forts au hall quand l'aube avance aux pattes de velours, eh bien c'est une belle idée.
J'ai des enfants, est-ce que je peux venir au restaurant ?
Alors félicitations d'abord. Le patron ne peut interdire l'accès à son restaurant pour un motif discriminatoire. Religion, race, état de santé, handicap, etc. C'est pareil pour les enfants. Sinon, c'est 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende.
Vous êtes sérieux ?
Eh oui. En revanche, pour les animaux, c'est permis de les interdire. Mais c'est aussi autorisé d'exiger qu'ils soient en laisse si on les accepte. Rien n'impose qu'on les nourrisse, mais je ne connais aucun chef qui refusera une gamelle d'eau et quelques restes bien choisis.
Quelle est votre politique par rapport aux enfants et aux chiens ? Pardon,
j'accepte
on
les deux.
On les met pas dans le même sac, hein ? Non, sans blaguer ?
Non, évidemment. Avant de faire ce métier-là, j'aurais dû être vétérinaire quand même. Donc,
Effectivement,
on aime les animaux.
D'accord, donc vous les acceptez ?
À table aussi, dans mon assiette aussi.
Mais avec quelques règles ?
Pardon ?
Non, mais attendez.
Comment, oui,
à table, vous les servez.
C'est-à-dire que quelqu'un qui veut quelque chose pour son chien, oui, évidemment que je vais lui donner à manger.
C'est ça.
Toujours un os qui traîne ou quelque chose comme ça.
Il aime l'hospitalité, notre ami Stéphane Reynaud. Je n'aime pas mon plat au restaurant quand il est servi. Est-ce que je peux en changer, Éric Morin ?
Alors, si vous estimez que votre plat n'est pas assez frais, pas suffisamment chaud ou pas cuit, saignant comme commandé, oui, vous pouvez demander à ce qu'il soit remplacé. Mais si c'est juste une question de goût, le chef est libre de vous le remplacer ou pas, mais il sera logiquement facturé. Vous avez aussi le droit d'exiger que les plats servis soient bien ceux désignés sur la carte. Pas de liman de sole à la place de la sole.
Évidemment.
Pas de surimi au crabe pour du crabe. Pas d'onglet à la place de la bavette. Astuce, la pièce du boucher qui est souvent écrite sur les cartes permet de servir n'importe quel morceau pour le restaurateur. La fameuse carafe d'eau est un droit, elle est gratuite, dans un bistrot, comme dans un 3 étoiles. Et si vous voulez manger seul, rien évidemment ne l'interdit. Vous avez aussi le droit de refuser de déposer vos effets au vestiaire.
Allez, prenons aussi un cas de figure qui arrive quand même régulièrement lorsque l'on se rend au restaurant. Il arrive qu'un serveur un peu maladroit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'imagine que oui, renverse un plat ou un verre de vin sur la veste d'un client ou la très jolie robe d'une cliente. Ça vous... C'est
déjà arrivé ? Non, jamais. Bien sûr que si,
ça arrive.
Oui, ça arrive. Après, c'est toujours la même chose, c'est le rapport qu'on a avec le client, donc on lui dit d'aller l'emmener nettoyer son manteau, et puis de nous amener la facture, on remboursera avec plaisir.
Ah, et ben on regarde la loi, qu'est-ce qui se passe, maître Morin ?
Effectivement ça, vous aurez le droit de vous faire rembourser les frais de pressing sur présentation d'un justificatif. Et puisqu'on parle de droit, n'oubliez pas vos devoirs, la politesse, alors c'est valable dans les deux sens, hein.
Mm-hmm.
On connaît aussi des établissements où la politesse n'est pas obligatoirement celle des serveurs.
Bien sûr, même avec des garçons carrément à trabilaire.
Et surtout, le respect de la réservation prise, et j'y suis particulièrement attaché, et nos amis restaurateurs aussi, les marges de certains restaurants sont faibles, parfois sur la ligne de crête de la rentabilité.
Mmh.
Une table de 4 réservée et non honorée, c'est non seulement de la mauvaise éducation, mais aussi une perte importante pour le restaurateur. En mauvais français, on appelle ça des no-show. Mmh. En bon français, ça ne s'appelle pas, puisqu'on ne doit pas le faire tout court.
Ouais, no-show, c'est censé dire, le client ne se présente pas,
ça peut arriver.
Mal assez français, j'ai envie de dire.
Et oui, c'est
vous allez au Japon, vous allez aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, d'abord on vous demande souvent de verser des arts au moment de la réservation au téléphone, 30% de l'addition, ce qui vous encourage en général à vous présenter, sinon vous perdez évidemment un peu d'argent. En France, on est parfois un peu léger là-dessus.
Vous allez chez les médecins, vous n'y allez pas, vous annulez.
Hmm.
Et pourquoi on fait pas la même chose chez les restaurateurs ?
Vous avez quand même une part des clients qui annulent ou pas ?
Oui, mais alors qui annule, il y a aucun problème. Je veux dire, c'est respectueux d'appeler en disant je ne viendrai pas ce soir, je suis désolé, aucun problème.
Mais je veux dire,
mais les gens qui ne se présentent pas, qui ont réservé, qu'on rappelle, j'ai oublié. Eh ben ouais, mais c'est 20h30, j'ai une table de 4, je vais la vendre à qui ? Je ne sais pas.
Mais ça arrive tous les jours ?
Pas tous les jours, mais ça arrive régulièrement. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on redemande les numéros de téléphone, on rappelle avant le service pour être sûr que tous les gens viennent. Non, c'est devenu compliqué. Ouais.
Quelle est la solution ?
Je n'en ai pas, j'ai juste l'éducation, comme disait Eric. C'est
parce que beaucoup de restaurateurs s'interrogent justement à faire, encore une fois, payer aux clients.
Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Mais
ou à demander le numéro de carte bleue.
Non, mais je préfère que les gens soient bien éduqués et qu'ils soient respectueux de nous.
Le message est passé. On a une petite réaction assez rigolote en référence à votre recette de Gravlax, chère Elvira.
C'est cadeau.
Oui.
C'est pour Noël. Nicolas de Plouzané nous écrit... Attention au temps de préparation du gravlax. Si on va trop vite, on fait un gravlax hâtif Et là, c'est pas terrible.
Un
vous l'avez ou pas?
Jeu de mots.
Jeu de mots.
Grave laxatif. Quel est le nom de cet auditeur?
Nicolas de Plouzané.
Bravo, Nicolas.
Bonjour, Nicolas.
On est très
champion du monde.
Ça nous plaît. Bon, grave lax, on l'espère pas hâtif chez Nicolas, en tout cas. On va finir avec évidemment une très belle recette sucrée. Et là, vous remettez au goût du jour ce que l'on pourrait appeler un gâteau un peu...
désuet.
Ou voire carrément ringard.
Oui, mais
pourtant,
j'adore.
On l'adore et c'est une très belle alternative à la bûche.
Un mocha. Un mocha tout simplement avec du vrai café, avec de l'expresso qui vient imbiber cette génoise et une crème au beurre dans le... Voilà. Ça va être la régression pure.
Racontez-nous un peu la recette.
Eh ben...
qui est d'ailleurs dans votre livre,
absolument,
comme toutes les autres.
Donc une génoise.
Qui est sur le site de franceinter.fr, à la page On va déguster.
Voilà, une génoise tout simplement, que je viens vraiment imbiber avec des expressos.
Oh là là,
et après, je fais une crème au beurre. Donc une crème au beurre, c'est quoi? C'est des jaunes d'œufs qui vont être cuits avec un sucre au petit boulet, et ensuite monter au beurre, et encore une fois avec des expressos. Il n'y a aucun arôme de café dedans, il n'y a que du bon.
Alors que la crème au beurre a vraiment plus du tout le vent en poupe, hein.
Mais
qu'on a mangé des mauvaises crèmes au beurre.
C'est une crème au beurre comme ça, avec une génoise qui va être pas du tout sucrée. Je pense que ça marche très très bien.
Et en même temps, c'est super léger, aérien, mousseux. Il y a un bon goût de café dans son amertume et sa rondeur. Il y a les petites noisettes concassées à l'extérieur qui apportent du croquant. Quel bonheur! Ça, je suis sûr que plein d'auditeurs vont se lancer sur cette recette. Ça, c'est une très belle recette festive. Et d'ailleurs, vous êtes en train de concocter un autre accord, cher Jérôme.
Oui, on termine notre réveillon, toujours avec Charlotte et Thomas dans le verre, avec un magnifique liquoreux. Nous en avons parlé abondamment il y a quelques semaines ici. Coteau du Layon, premier cru, Chaume, cuvée Galardon 2015. Grand millésime. Alors, c'est ce que Charlotte me disait au téléphone. On a fait du 2015, on n'en a pas fait forcément dans les millésimes suivants, ça rejoint ce que nous disions. C'est un vin exceptionnel, il est fait dans les années exceptionnelles, c'est un vin qui vaut 30 euros, la bouteille de 75 centilitres, pour un vin de ce niveau-là, honnêtement, c'est vraiment cadeau. Parce que franchement, les coûts de production sont extrêmement élevés. C'est un superbe vin liquoreux qui allie à la fois la puissance de la liqueur due au botrytis. On en a parlé, c'est le champignon, la pourriture noble, qui favorise la production de ces grands vins liquoreux. Et une belle et grande acidité qui vient comme ça, comme une belle vague, nettoyer le palais en finale. Le vin n'est pas saturant. Et ça accompagne très joliment le mocha, qui est une espèce de régression extraordinaire.
Fabuleux dessert.
Fabuleux. Et donc voilà, on aura passé notre réveillon en compagnie de Charlotte et Thomas dans nos verres. Mille merci, c'est des très beaux vins.
Et c'est vraiment un accord qui se passe bien. Vous faites tourner les verres, évidemment. Bravo pour ce mocha. Stéphane Reynaud.
Merci.
On a une petite question. Évidemment, l'œuf maillot est très à la mode en ce moment. Vous avez des relations très proches de l'ASOM, l'association
absolument
de sauvegarde de l'œuf maillot. Évidemment, hein, avec toute la bande, on va pas tous les citer, mais en tous les cas, ils œuvrent pour l'œuf mayo. Vous, votre définition de l'œuf mayonnaise?
Encore une fois, c'est de le faire vivre en fonction des saisons. 8 minutes 45 de cuisson, et après, voilà, la saison.
8 minutes 45, on n'est pas du tout sur le 10 minutes d'un œuf dur.
8 minutes 45, point barre.
C'est ça.
Une seconde de plus.
Quelle cuisson du poireau pour un poireau vinaigrette? Et là, vous avez une cuisson très
étonnante. Moi, je l'ai fait au
four. J'ai essayé à la maison et c'est superbe.
Moi, je l'ai fait au four entier, à 160 degrés, à peu près 30 minutes. Donc, il y a la première peau qui va se noircir. Et après, on l'ouvre. C'est comme si c'était cuit à l'étouffée.
Et c'est fondant.
Et ouais, c'est et très c'est fondant. Ça garde le goût. Ça concentre les goûts.
C'est incroyable.
Et après, vous faites votre vinaigrette. Encore une fois, votre vinaigrette.
C'est ça. Quel mode de cuisson pour les bulots?
On les bulots dans un bouillon. Après, encore une fois, vous l'assaisonnez avec ce que vous avez un peu de curry, vous allez mettre du curry dans votre bouillon. C'est ce que vous avez sous la main, c'est ça la cuisine en fait, c'est de voir ce qu'on a dans le placard, en fonction de ça, on cuisine.
Et on a à sa disposition le livre, Bistrotier, le livre des joues rouges et des assiettes associées, 80 pages à boire, 400 pages à manger, il y a 250 adresses, vous vouliez rajouter quelque chose Stéphane?
Je voulais juste embrasser l'équipe qui est en pleine mise en place en ce moment, moi je suis là avec vous en train de boire des canons, donc je les embrasse très fort.
Vous parlez de Wim en général?
Absolument.
C'est ouvert le dimanche?
Oui, bien sûr.
Et c'est ouvert le lundi?
C'est ouvert le dimanche, le lundi, et là ils sont prêts, ils sont taquets.
Eh bien écoutez, vous allez avoir un peu de monde qui va venir vous voir.
On était déjà complet avant de venir, donc c'est parfait.
Zut. Ah oui, c'est ça, le tout publié aux éditions du Chêne, un immense merci. La semaine prochaine, on vous mitonne une émission spéciale fête, on va déguster Dresse, le bilan gourmand de l'année 2021, recettes, bonnes adresses, lectures, films, bref, le meilleur de la gastronomie de l'année écoulée. Elvira Masson, Déborah Dupont, Dominique Hutin et Laurent Delmas seront autour de la table. Salut les copains, bonne fête à tous.
Bonne fête à tous.
Merci. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.